Vous écoutez
RMC. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Général Jean-Paul Paloméros.
Bonjour.
Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. Vous êtes l'ancien chef d'état-major de l'armée de l'air et ancien commandant suprême de l'OTAN. Écoutez, boum, boum, bye bye, bye bye fast boat, boum, laser, laser, bing bing, gone. Ça, c'est les dernières déclarations, là, dans les dernières heures, faites par le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump. Est-ce que c'est ça la guerre? Et je vous évite les petits symboles à côté et le nombre de points d'exclamation et les mots en gros. Boum! C'est ça la guerre?
Non, bien sûr que non. Mais c'est une manifestation du mélange qui est très, très préoccupant du virtuel et du réel dans nos vies. Ça fait longtemps que je réfléchis à ces sujets-là parce que je pense que le virtuel a envahi nos vies et bon, c'est compréhensible, c'est ainsi. Mais il impacte y compris la politique, les jeunes. Je pense qu'on est en train de découvrir que cette dualité, la personnalité avec une sorte de jumeau numérique permanent, est très déstabilisant.
Et on le voit bien.
Y compris pour certains hommes politiques.
Et on le voit bien, effectivement, il y a les décisions dans le monde réel et Donald Trump a montré qu'il était capable d'en prendre. Et puis, il y a effectivement ce récit permanent qui, à un moment, font penser à ceux qui crient toujours au loup. Et lorsque le loup est là, on ne les croit plus. Est-ce que vous prenez au sérieux les toutes dernières déclarations de Donald Trump? Et j'ai même envie de vous dire, est-ce que les Iraniens les prennent au sérieux?
Les Iraniens, eux, ils suivent leur ligne. Ils sont pas du tout dans le monde virtuel. Ils ont tué des dizaines de milliers de leurs concitoyens, si je peux les appeler comme ça. Et ils savent très bien que depuis 47 ans, ce régime autocratique, kleptocratique, théocratique, sous certains aspects, ne survit que par la réalité de la terreur qu'il inspire à son peuple. Et maintenant, à une bonne partie du monde, enfin, déjà dans son environnement, mais avec des impacts qui sont mondiaux. Donc là, il n'y a plus d'alternative. On va en reparler sans doute, mais je crois que les Européens commencent à prendre vraiment la mesure de ce qui est en train de se passer. Et là, on n'est pas du tout dans le monde virtuel.
Alors justement, dans le monde réel, il y a effectivement la question des options qui restent sur la table.
Bien sûr.
Du côté des négociations, on va y revenir, mais ça semble au point mort, voire même dans une sorte d'impasse. Sur le terrain, en revanche, on le voit bien, le cessez-le-feu, Donald Trump a d'ailleurs eu cette expression, il dit il est sous assistance respiratoire. Dans la réalité du détroit d'Ormuz, il y a cette présence désormais, y compris de nos propres capacités, hein, on va y revenir, mais le Charles de Gaulle est en approche, il n'est qu'à 48 heures s'il fallait d'être sur la zone. On a appris ce matin la présence d'un deuxième sous-marin nucléaire américain. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce déploiement et sur la volonté de le faire savoir?
C'est légitime. Si on veut inspirer non seulement le doute, mais la crainte chez le pouvoir iranien, et ça ne va pas être simple, hein, il faut effectivement faire savoir qu'on est là. On n'est pas obligé de dire où on est. Hein, et souhaitons que les positions restent relativement confidentielles. Pour tout le monde, évidemment. On sent la montée en puissance de quelque chose, et en particulier du côté des Européens. Vous savez qu'il y a 40 pays qui se sont réunis hier, à l'instar, sous l'égide de la Grande-Bretagne d'un côté, de la France de l'autre, pour se poser les bonnes questions et commencer à agir.
Il y a la fameuse coalition.
Voilà. Et qui va se prépositionner. Alors, certains diront, oui, mais ils veulent pas faire la guerre. OK, mais c'est une première étape de prise de conscience de la réalité de ce qu'est aujourd'hui la guerre en Iran et de ses conséquences.
Ça veut dire que pour vous, cette guerre, désormais, tout le monde est parfaitement lucide sur le fait que ce n'est pas notre guerre, mais ça le devient.
D'une manière ou d'une autre, oui. On comprend ce que voulait dire, c'est pas notre guerre, on veut pas aller attaquer l'Iran. Mais maintenant, on est devant une alternative qui est terrible. Il faut regarder les choses en face, et ça non plus, c'est pas du virtuel. Soit on admet que l'Iran devienne plus ou moins la puissance régionale, qu'elle inspire effectivement, qu'elle continue à inspirer la terreur, non seulement à son peuple, mais aux pays du Golfe et bien au-delà. Et bien au-delà. Et maintenant, ils commencent à avoir des moyens qui portent loin. Missiles balistiques en particulier.
Qui se sont reconstitués. Hein.
Bien entendu. Et c'est intéressant de voir d'ailleurs l'analyse des services de renseignement qui un jour vous disent, bon, américain, il y a 40% des missiles, le lendemain c'est 70%, enfin personne n'en sait rien, mais il y en a suffisamment pour inspirer la terreur. Donc soit on admet que dans les années à venir, et ça va durer longtemps, a priori, si on n'y fait rien, ce régime continue, il inspire la terreur, il contrôle en particulier ce nœud de passage, de transit de l'économie mondiale qu'est le détroit d'Hormuz, et il progressivement, il acquiert plus ou moins une capacité nucléaire, parce que ça se terminera comme ça, qu'on le veuille ou non. Ou alors on dit non, stop cet état, n'est plus un état acceptable.
Mais ça veut dire, Général, qu'au fond, ce que vous dites, c'est qu'une fois que cette guerre a été commencée, il est d'autant plus coupable de la terminer, pardon de le dire, mais en autre boudin. C'est-à-dire qu'on ne sait plus si on est en paix, si on est en guerre, si on est en début de cessez-le-feu ou en fin de cessez-le-feu. On ne sait plus quelles sont les options de sortie. Et d'ailleurs, si on en sortira réellement.
Ce qui est sûr, c'est que faire la guerre sans faire la guerre, c'est pas possible. On peut, un chef d'état-major des armées avait dit, faire la guerre avant la guerre, ça c'est intéressant, parce qu'il faut s'y préparer, et donc anticiper tout ces scénarios, si vous voulez. Je crois que l'heure de vérité, quand même, va s'approcher au fur et à mesure que les conséquences de ce qui est en train de se passer, en particulier dans le détroit d'Hormuz, et d'une manière plus générale dans la région, vont se faire sentir. On voit bien les attitudes des Émiriens qui commencent vraiment à prendre leur sort entre leurs mains. Et je crois que c'est un bon exemple. On voit bien les Européens qui s'interrogent, hier encore, une réunion des ministres de la Défense, qui s'interrogent sur l'application de l'article 42.7.
Personne n'avait... Alors, est-ce que vous pouvez nous préciser cela ?
Eh bien, 42.7, c'est l'équivalent, si vous voulez, de l'article 5 pour l'OTAN, la défense collective.
L'article 5, c'est pour les Nations Unies.
L'Alliance Atlantique. Et de l'autre côté, on a ce 42.7 qui était un peu passé sous silence parce qu'on se disait, les Européens, ils ont inscrit ça dans le traité de Lisbonne, c'est bien, il est aussi engageant que l'article 5 de l'OTAN. Et vous avez quand même 23 pays de l'Union Européenne qui sont liés à la fois par l'article 5 de l'OTAN et par le 42.7. Et hier, Maria Callas, elle a réuni les ministres des Affaires de la Défense pour réfléchir à l'application de cet article. Ça, c'est une bonne chose, parce que c'est maintenant...
Ça veut dire que l'Europe prend son destin en main, en quelque sorte. Ça veut dire aussi, Jean-Paul Palomeros, vous l'évoquiez, que les Émirats Arabes Unis ne subissent plus, puisqu'ils ont décidé, et on l'a appris hier, de riposter, à proprement parler, de se réarmer eux aussi face à l'Iran. Il y a aussi la question d'un certain nombre de pays du Golfe qui considèrent désormais, c'est ce que dit le Qatar, c'est ce que dit même Bahreïn, que l'Iran essaye de les infiltrer, essaye de déstabiliser aussi ces pays-là. Est-ce qu'au fond, on est dans un point de bascule où les pays du Golfe qui sont pris en tenaille pourraient devenir eux-mêmes acteurs contre l'Iran ?
Les pays du Golfe, malheureusement, ils connaissent leur vulnérabilité. Ils ont pu l'apprécier au rythme de cette guerre. Ils ne s'attendaient pas du tout à être frappés aussi durement et d'une manière préventive, pratiquement, dès les premières frappes. Il n'y a pas eu d'alarme, il n'y a pas eu d'alerte. Les Iraniens, eux, ils sont rentrés dedans sans coup férir, si vous voulez. Donc, pour eux, ils sont dans cette phase où soit ils osent, soit ils n'osent pas. Mais de toute façon, dans tous les cas de figure, si la guerre redémarre, ce qui est probable, on peut le penser, ils seront en première ligne.
Au moment où l'on se parle, pour vous, l'option militaire reste celle qui va sans doute être activée. Je voudrais vous donner les mots que Donald Trump a prononcés juste avant de décoller. On le sait, il est en route vers la Chine pour cette rencontre de 2 jours. La seule chose qui importe, dit-il, s'agissant de l'Iran, c'est qu'ils ne peuvent pas avoir l'arme nucléaire. Je ne pense pas à la situation financière des Américains. Je ne pense qu'à une seule chose. Nous ne pouvons pas laisser l'Iran avoir l'arme nucléaire. Et voilà tout.
Oui, alors il aurait pu se poser la question au moment où il a dénoncé le fameux accord qui n'était pas parfait, mais il avait le mérite d'exister. Aujourd'hui, on n'a plus rien sur la table.
L'accord sur la prolifération nucléaire.
Donc ça va être très difficile de faire entrer le diable dans la boîte, si vous voulez. Une fois qu'il est sorti, et les Iraniens sont pas dupes. Donc ils savent très bien que il faut conserver les compétences, et ça ils les ont, qu'il faut... cacher profondément ces stocks et tout ce qui leur permet de continuer à enrichir leur uranium.
Si la guerre active, je dirais, reprenait, avec à nouveau des frappes, des bombardements, est-ce que Donald Trump pourrait se passer de devoir aller sur le sol?
Plus on avance et plus je pense que non. Là maintenant, on est devant une alternative qui est claire. Alors, je sais pas si elle est claire pour Donald Trump, mais elle le deviendra. C'est que soit, et c'est ce que je disais tout à l'heure dans l'alternative que je développais, soit on laisse l'Iran se développer, continuer à tuer son propre peuple et à dominer cette région avec tout ce que ça peut comporter comme conséquence, soit on dit c'est fini, comme on l'a fait. Faut se souvenir quand même de l'histoire assez récente. En 1991, tout le monde une grande coalition s'est liguée pour dire à Saddam Hussein, non, tu n'as pas le droit d'envahir le Koweït. La situation est bien plus grave aujourd'hui qu'elle ne l'était.
Elle est bien plus grave et donc pouvons-nous ne rester effectivement que observateur à la marge, j'en parle y compris physiquement, géographiquement. Je voudrais qu'on dise un mot de notre fameux Charles de Gaulle. Il a voulu montrer, là encore, on parlait des deux sous-marins nucléaires que les Américains font savoir, dont les Américains font savoir qu'ils s'approchent eux aussi. Notre Charles de Gaulle, il est à la sortie donc de la mer Rouge, il n'est qu'à 24-48 heures de l'entrée du détroit d'Ormuz. Est-ce qu'il faut qu'il s'approche encore davantage? Quel est le message qu'il faut oser ou ne pas oser faire passer?
Mais s'approcher davantage, ça c'est l'affaire du travail des états-majors, de savoir quel est le meilleur positionnement. Là, il est peu ou prou dans le golfe d'Aden ou en mer d'Arabie. Il est bien, d'autant plus que...
C'est le bon endroit.
Oui, c'est le bon endroit pour une raison qui n'est pas mise en évidence, c'est qu'il est proche également de la mer Rouge et du détroit de Baden-Mandeb, qu'il a d'ailleurs franchi sans encombre, faut le souligner. Donc ça veut dire aussi qu'il y a cette double alternative. Faut jamais l'oublier, il y a quand même deux perspectives, la mer Rouge d'un côté, le détroit d'Ormuz, avec le détroit de Baden-Mandeb et l'Ormuz. Si on peut stabiliser déjà, c'est peut-être une première étape, la mer Rouge et le détroit de Baben-Mandeb, on peut redonner confiance peut-être à... Alors ça va pas sauver le monde si vous voulez, mais c'est comme si on peut éviter aux pétroliers et autres de faire le tour par le Cap de Bonne-Espérance, c'est toujours ça de gagner, et ça donne une idée de la manière dont on pourrait stabiliser les choses. Maintenant, pour répondre à votre question, moi je n'ai qu'un mot en tête, c'est il ne faut pas, qu'une phrase en tout cas, il ne faut pas subir. Subir, c'est terrible. Donc, il faut être proactif, d'une manière ou d'une autre, au plan diplomatique, sur le plan militaire. Je crois qu'il ne faut pas laisser l'Iran souffler. C'est pour ça que je ne suis pas du tout convaincu par le cessez-le-feu tel qu'il a été enclenché. Parce que ce cessez-le-feu, il a été déclaré unilatéralement par les Américains, si on regarde bien. Et pourquoi faire? Et c'est ça la question.
Au fond, vous dites, on a de manière coupable laissé les Iraniens souffler,
oui,
se réarmer,
oui,
et donc d'une certaine manière reprendre l'avantage.
Oui. Et surtout ressortir avec ce sentiment de victoire qu'ils affichent au quotidien. Je veux dire, quand ils s'en prennent par anticipation à la France ou aux alliés qui viennent pour l'instant dans le golfe
vous
d'Aden.
Vous évoquez évidemment les menaces faites par l'Iran. Seule la République islamique d'Iran peut assurer la sécurité dans ce détroit. Elle n'autorisera aucun pays à s'ingérer dans ce domaine. Voilà ce que dit le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, qui cite nommément la France et les États-Unis en disant qu'ils nous attaqueraient et qu'ils réagiraient si nous nous en mêlions, en quelque sorte.
À qui cite la France, c'est plutôt un honneur pour nous parce que au moins on bouge. On n'a pas décidé de faire la guerre à l'Iran, tout à moins à ce stade, mais en tout cas, on est les premiers à avoir non seulement assuré nos accords de défense, et ça c'était une bonne chose, et que ça soit aux Émirats, c'est pas un hasard. Et de l'autre côté, d'essayer de faire comprendre à tous les pays, il y a 40 pays quand même qui se sont réunis hier, c'est pas rien, des ministres de la Défense de l'Union Européenne, qu'on ne peut plus subir. Ça veut pas dire qu'on est prêt à rentrer en guerre demain. Peut-être que ce sera le cas, mais montrer à l'Iran qu'il n'y a pas que les États-Unis.
Peut-être que ce sera le cas. C'est-à-dire que, général, vous dites ce matin, au fond, il ne faut pas avoir peur de se dire qu'à un moment, peut-être qu'il faudra nous-mêmes entrer en guerre.
Si vous voulez, vous vous souvenez de la phrase de Churchill? Vous avez pas voulu la guerre et le déshonneur, et finalement vous avez eu et la guerre et le déshonneur. Il faudrait pas que ça nous arrive ce genre de choses, parce que je reviens toujours à mon alternative de laisser, enfin c'est mon sentiment et c'est ma conviction, vous le voyez bien, laisser l'Iran dominer cette partie du monde, s'imposer comme une puissance majeure avec tout ce que ça comporte. C'est quand même le pays qu'il veut détruire, qui est affiché dans sa constitution, qui allait détruire Israël. Comment voulez-vous qu'Israël soit insensible à cette déclaration, à cette idéologie? Donc, bien sûr que l'Iran doit, il faut tout faire pour ramener l'Iran dans une sorte de, non pas de paix, mais au moins de compréhension, de changement d'attitude. Et ça, pour moi, ça passe par un changement de régime. Et donc, sans doute par la guerre.
Sans doute par la guerre, c'est quand même très fort ce que vous nous dites ce matin, alors qu'on a l'impression effectivement d'être à mi-chemin, ou en tout cas au bout de ce qui pouvait laisser penser qu'un cessez-le-feu se poursuive. Vous vous dites, il ne pourra pas ne pas, à un moment ou à un autre, y avoir une reprise, ou alors ce sera la défaite.
Bah oui, ça, c'est ce qu'on peut craindre. C'est que si on s'en sort, regardez l'affaire du nucléaire. Puisqu'on est parfois dans le monde virtuel, je pousse un petit peu le scénario. Regardez, mais finalement, il suffit que l'Iran donne un signe quelconque sur le nucléaire pour donner à Donald Trump un échappatoire. Peut-être. Ça, c'est le nucléaire, c'est le sujet et le problème. Ça peut être la solution pour Donald Trump. Ça n'aura rien réglé parce que
pour pouvoir afficher une sorte de Graal.
Si l'Iran dit, ils ont fait des propositions d'ailleurs. C'est à peu près les seules propositions qu'ils ont faites.
Notamment le fait de donner les fameux 450 kilos d'uranium à une nation tierce. On évoque la question de la Russie, mais avec l'idée qu'ils puissent les récupérer si les négos n'aboutissent pas.
Personne n'est dupe, mais il n'y a pas vraiment d'alternative, parce que la mainmise qu'ils ont sur le détroit d'Hormuz, je peux vous dire que ça va être extrêmement difficile, sauf à faire la guerre, de l'enlever, de le reprendre. Là, ils ont compris qu'ils détenaient une partie du sort de l'économie mondiale.
La bataille navale qui a sévi il y a quelques jours, qui était pour le coup un vrai échange, pour vous paraît presque anecdotique. Ça n'a pas de fait rouvert le détroit.
Moi, j'avais, comme d'autres, identifié Hormuz comme étant un point stratégique dès l'entrée dans cette guerre. Et je continue à le penser, mais les faits malheureusement me donnent raison. La bataille d'Hormuz n'a pas eu lieu.
La bataille d'Hormuz n'a pas eu lieu.
N'a toujours pas eu lieu.
Est-ce que je peux le dire?
C'est-à-dire que la bataille d'Hormuz, elle fait partie de la guerre dans son ensemble. On peut pas dissocier l'un et l'autre. On ne peut pas éviter des sujets aussi stratégiques que le détroit d'Hormuz pour faire la guerre à l'Iran. C'est conceptuellement, c'est complètement incohérent.
Merci beaucoup, Général, pour vos lumières ce matin. Général Jean-Paul Paloméros, vous êtes l'ancien chef d'état-major de l'armée de l'air et ancien commandant suprême de l'OTAN. Merci infiniment.